Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, tournons-nous vers la constellation du Lion. Bien visible en hiver et au printemps, elle est comme toutes les constellations du zodiaque fort ancienne. Les Grecs l'associaient au Lion de Némée, qui fait partie de l'épopée d'Hercule et qui est même le premier de ses 12 travaux. Après un accès de folie qui le fait tuer femme et enfant, Hercule se voit contraint de se mettre au service de son cousin Eurysthée. Eurysthée lui demande comme première tâche de tuer le lion de Némée et de lui en rapporter la peau. Car la peau de ce lion, fils d'Orthos, le chien de Gérion et de la Chimère, et élevé par Héra, est réputée indestructible. À son arrivée sur les lieux, à Cléonès, le héros s'arrête dans la hutte d'un laboureur, nommé Molorchos, qui veut lui offrir un sacrifice comme à un dieu. Refusant pareil honneur, Hercule lui demande d'attendre un mois. Ce mois écoulé, ou bien il méritera un sacrifice au titre de héros mort, ou bien il aura tué la bête, auquel cas Molorchos pourra alors offrir le sacrifice à Zeus. Un soir, Hercule surprend le lion sur le versant d'une colline, après le repas de la bête. Dissimulé, il tire sur elle à coups de flèche, mais il s'aperçoit rapidement que le monstre est invulnérable. Ses flèches, pourtant offertes par Apollon, rebondissent sur le cuir du fauve. Le lion charge. Hercule évite l'assaut. Il combat, armé seulement de sa massue en bois d'olivier. Il en frappe le lion et puis l'étouffe en brisant sa massue dans la mêlée. Il l'écorche ensuite en utilisant les propres griffes du monstre pour entamer la peau coriace. Il nettoie la peau que ni le feu ni le fer ne peuvent entamer et s'en revêt. Zeus met le lion dans le firmament au nombre des constellations. Hercule conservera la peau du lion de Némée afin de s'en recouvrir, ce qui l'aidera dans la suite de ses travaux. Le lion peut être localisé à partir de la Grande Ourse, en prenant l'alignement des deux étoiles internes de la casserole, Mégrèse et Phegda. Cet alignement arrive sur une autre étoile très brillante, et c'est Alpha Leonis, c'est l'étoile Régulus. Localement, on peut reconnaître le lion directement, par sa forme générale, si les conditions de visibilité sont bonnes, par la forme de faucille que forme sa tête. Personnellement, je trouve que cette constellation ressemble plutôt à un cintre. À partir de Régulus et Algébia, on distingue la croupe du lion, à leur gauche, formée par Denebola, Zosma et Chertan. Dans de bonnes conditions, vous verrez l'alignement Régulus-Algébia se prolonger vers le nord en une courbe qui s'arrondit vers l'ouest en repassant par Rasalas, c'est la crinière du lion. Cette courbe ainsi alliée à l'avant du lion est appelée l'astérisme de la faucille. Profitons pour en prendre un temps pour repérer la discrète constellation du Cancer. Partant de Régulus du lion, visualisez le triangle qu'elle forme avec Procyon, la constellation du chien, et Pollux de la constellation des Gémeaux. Au milieu de ce triangle, vous trouverez la constellation du Cancer, qui a grosso modo la forme de la lettre grecque lambda. Cette constellation était appelée Tortue par les Babyloniens et Scarabée par les Égyptiens. Son nom grec, Carcinos, fait plutôt référence à une écrevisse, le terme repris en français par Diderot dans son encyclopédie. En Grèce antique, on la connaissait sous le nom de Porte des Hommes, là d'où les âmes provenaient pour pénétrer les corps à la naissance. Dans la mythologie grecque, il s'agissait d'un crabe qui prit parti pour l'hydre et qui, dans son combat avec Hercule, fut écrasé. Il sera ressuscité ensuite par Poséidon en monstre géant pour servir dans son armée. Pour ses efforts et à sa mort, il fut élevé au ciel par Héra. On voit bien que dans la mythologie grecque se séparent le clan de Héra, de Poséidon et de tous les monstres, et le côté de Zeus, avec tous les dieux plutôt positifs. De l'autre côté de la constellation du lion, vers l'est, se trouve une constellation appelée la chevelure de Bérénice. Elle était, avant d'être considérée comme une constellation à part, une partie de la constellation du lion. Son nom fait référence à la reine Bérénice II, qui sacrifia sa longue chevelure pour en faire une offrande votive à Aphrodite. C'est un des rares personnages historiques à avoir légué son nom à une constellation. Avec l'écu de Sobieski, une constellation située entre le Sagittaire, l'Aigle et le Serpentaire. Sobieski, c'est le roi de Pologne, Jean III Sobieski. Il conduisit la défense de la Pologne et de Vienne contre les armées de l'Empire ottoman et remporta une bataille importante le 12 septembre 1683. Un an plus tard, l'astronome polonais Johann Hevelius nomma cette partie du ciel, coincée entre l'Aigle et Sagittaire, en son honneur. C'est peut-être aussi parce que le roi Jean III Sobieski l'avait aidé à reconstruire son observatoire endommagé par un incendie. Revenons à notre Bérénice, épouse de Ptolémée III, avec qui elle règne entre moins 246 et moins 222. Durant l'absence de son mari en Syrie, elle fait le vœu à la déesse Aphrodite de lui sacrifier sa magnifique chevelure si son mari rentre sain et sauf. Son mari étant revenu sain et sauf, elle coupe une boucle de ses cheveux pour en faire une offrande au temple de la déesse à Zéphyrium. La chevelure ayant disparu de façon mystérieuse, Conon de Samos, l'astronome de la cour, l'expliqua de façon romantique en indiquant un amas stellaire et en disant que l'offrande avait tellement plu à la déesse qu'elle l'avait traduit dans les cieux. La constellation de la chevelure de Bérénice est faible et ses trois étoiles forment un triangle. Mais cet endroit du ciel est surtout notable par l'un des amas de galaxies les plus riches connus, c'est l'amas de la chevelure de Bérénice. Lui-même contenu dans le super-amas de la chevelure de Bérénice. L'amas de la chevelure de Bérénice, ou amas des Coma, est un vaste amas de galaxies qui contient plus de 1000 galaxies identifiées. La région centrale de cet amas est dominée par deux galaxies elliptiques géantes, NGC 4874 et NGC 4889. L'amas est situé dans le ciel à quelques degrés du pôle nord galactique. Comme il est courant pour les amas de cette richesse, les galaxies sont très majoritairement elliptiques, avec seulement quelques galaxies spirales plus jeunes, et donc beaucoup sont probablement situées en périphérie de l'amas. Revenons un temps sur les classifications des galaxies. C'est Edwin Hubble, astronome américain du XXe siècle, qui a donné son nom au célèbre télescope spatial, qui a le premier proposé une classification des galaxies. Il y a d'abord les galaxies elliptiques. Ces galaxies présentent une distribution des sources lumineuses douce, régulière, dépourvue de motifs quelconques, et ont, comme leur nom l'indique, la forme d'une ellipse. Plus précisément, un ellipsoïde, qui ressemble un petit peu à un ballon de rugby, puisque ces structures sont évidemment en trois dimensions. Elles ont une petite structure interne, et la densité des étoiles diminue doucement du centre lumineux vers les bords qui sont plus diffus. Elles sont classées dans la séquence de Hubble en tant que type E, comme elliptique. Et elles se déclinent selon leur forme du type E0, très circulaire, au type E7, fortement elliptique. Elles ont des tailles très variables, depuis la galaxie naine, à peine plus grosse qu'un amas globulaire, à la galaxie géante qui peut avoir plusieurs millions d'années-lumière de diamètre. Comme les deux galaxies de l'amas de la chevelure de Bérénice, par exemple. Si on continue à avancer dans la classification de Hubble, on trouve ensuite les galaxies spirales, plus aplaties, en forme de disque. Elles ont une forme plus nette et présentent des bras spiraux, ainsi qu'un renflement central sphérique très lumineux appelé le bulbe. Les galaxies spirales contiennent également, et de façon variable, des quantités importantes de gaz et de poussière. Et c'est ça qui sépare les bras spiraux entre eux. Autour du disque, il existe également un halo plus ou moins dense et plus ou moins discret, aux étoiles fréquemment regroupées en amas globulaires. Il existe une sous-classe aux galaxies spirales, ce sont les galaxies spirales barrées, c'est-à-dire que les bras spiraux n'émergent pas du centre de la galaxie, mais d'une bande d'étoiles traversant le centre. Il semblerait que notre Voie lactée soit de type spirale barrée, mais on n'en est pas sûr, car le fait qu'on fasse partie de cette galaxie rend son observation vraiment compliquée. Les bras spiraux sont le lieu de nombreuses créations d'étoiles. Dans notre Voie lactée, il naît à peu près 7 étoiles par an, soit une nouvelle étoile tous les 2 mois. C'est-à-dire que le temps d'écouter cette série d'émissions du début à la fin, une étoile sera née. Entre les galaxies elliptiques et spirales, on trouve une classe intermédiaire. Ce sont les galaxies lenticulaires. Elles sont notées S0. Ces galaxies se composent d'un bulbe central brillant, à la manière des galaxies spirales, et d'une structure étendue en forme de disque qui l'entoure. Mais, à la différence des galaxies spirales, le disque galactique des galaxies lenticulaires ne présente pas de bras spiraux et ne forme pas d'étoiles nouvelles en quantité significative. Le bulbe est souvent la principale source de lumière d'une telle galaxie. Les lenticulaires vues de face sont difficiles à distinguer des elliptiques et rendent la classification parfois incertaine. Lorsqu'elles sont vues de profil, des bandes de poussière sombre sont parfois visibles par absorption devant le disque. Il est intéressant de noter que lors de la publication initiale du schéma de classification de Hubble, l'existence des galaxies lenticulaires était purement hypothétique. Hubble pensait qu'il devait y avoir une étape intermédiaire entre les elliptiques, les plus aplaties, et les galaxies spirales. Ce sont des observations postérieures, en partie par Hubble lui-même, qui ont démontré que l'idée de Hubble était correcte, et la classe S0 fut donc incluse lors de la présentation définitive de la séquence de Hubble par Alan Sandage. Enfin, il existe aussi des galaxies irrégulières, qui ne présentent pas de forme typique. Ces galaxies, au profil asymétrique, n'ont pas de bulbe centrale ou pas de spirale évidente. Au lieu de ça, elles contiennent beaucoup d'amas individuels d'étoiles jeunes. L'état actuel de nos connaissances laisse à penser que les galaxies se forment par l'accrétion de gaz sous l'effet des filaments de matière noire. La matière noire n'est qu'une théorie, elle n'a jamais été observée. C'est un petit peu pour ça qu'on l'appelle la matière noire. Mais elle est une théorie essentielle à la théorie du Big Bang. En fait, sans cet ajout de matière invisible, la théorie du Big Bang ne tient pas. Et ce n'est pas un ajout négligeable, parce que d'après les calculs, il y a environ 6 fois plus de matière noire dans l'univers que de matière visible. Mais si on admet son existence, elle explique les liaisons entre les galaxies, les amas de galaxies, et le positionnement de ces objets le long de filaments galactiques, puisque c'est cette matière qui exercerait un effet gravitationnel et qui rassemblerait les galaxies sur ces filaments. Cette matière noire, donc, exerce une force de gravitation sur les gaz présents dans l'univers. Elle les compresse, et en les compressant, elle entraîne la formation d'étoiles, plusieurs dizaines de milliers d'étoiles au même endroit, qui forment une galaxie, d'abord irrégulière. La galaxie s'organise ensuite, d'abord en spirale, sous l'effet de son centre, qui comporte presque toujours un trou noir supermassif. Les bras spiraux sont distincts tant que du gaz et de la poussière subsistent dans la galaxie, mais au fur et à mesure des cycles création, vie, mort des étoiles, il y a de moins en moins de gaz libre. La galaxie devient alors lenticulaire. Il semble que les galaxies elliptiques soient le résultat de collisions, de fusions ou encore d'absorption de galaxies entre elles. Ainsi, notre galaxie devrait entrer en collision avec celle d'Andromède d'ici 4 milliards d'années, formant ainsi une galaxie elliptique géante appelée Lactomède.